vous avez mis sur le tableau deux ou trois points qui étaient comme une préparation à cette étude des antécédents de la foi. Et alors j'avais traité, je pense, la distinction entre concernant nos éléments comme une connaissance réelle, et puis aussi la... la contestation de la peur absolue dans les sciences exactes, ou une conception trop naïve de la peur absolue dans les sciences exactes, mais je pense que on a illustré ça dans mes textes que je donnais, plutôt des sciences qui ne sont pas des sciences exactes, histoire, psychologie. Ce qui me reste à vous voir avec vous, avant d'aborder le problème des antécédents de la foi, de l'acte de foi, il y a la connaissance des valeurs morales. Et puis il y a cette phénoménologie. Parce qu'un humain serait plus de faire, de le fonder en métaphysique, connaissance réelle et non pas simplement notionnelle. Et non notionnelle. Non pas notionnelle, bon. L'existence de Dieu. Voilà, c'est ce point-là d'ailleurs qui est le plus important. Mais comme préalable, il faut que nous disions ceci, c'est que l'empirisme du Newman ne l'empêche pas de nous faire accéder dans ce qu'il dit à une connaissance des valeurs morales comme étant situées sur un plan universel, moralo-métaphysique, si vous voulez. Et le texte numéro 2 part d'une présentation encore phénoménologique et empirique de ces valeurs morales, mais en fait ceci se complète avec une autre un autre approche qu'il fait où il est question de voilà, c'est ça. Donc prenons le texte numéro 2 d'abord, c'est 2, oui. Oui, où il donne encore une définition ou une description, disons, de l'expérience que nous avons de choix moraux à faire d'une manière encore empirique et phénoménologique. Est-ce qu'on peut lire le texte numéro 2 là? De même qu'il y a
de même qu'il y a des objets qui, présentés à l'esprit, lui font éprouver chagrin, regret, joie ou désir, ainsi il est des choses qui excitent en nous approbation ou blâme, et qu'en conséquence nous appelons bonnes ou mauvaises, des choses qui, lorsque nous en avons une expérience personnelle, éveillent en nous ce sens spécifique de plaisir ou de douleur qu'on appelle communément bonne ou mauvaise conscience.
Voyez, c'est comme si on réduisait la conscience, la conscience morale, un être qu'une sensation de plaisir ou de douleur. Mais Newman n'en reste pas là, en fait. Et alors, je vais lire un passage de la grammaire de l'assentiment où même s'il ne parle en termes d'universaux, de principes moraux qui dépassent les cas particuliers pour être applicables dans tous les cas, ça c'est pas son langage. Il nous donnera la conception que lorsque on voit un acte qui est ou bien ou mal, surtout lorsque nous voyons un acte qui est mal, un seul cas de cet acte mauvais dans un domaine de traiter le prochain ou autre, eh bien, est suffisant pour nous donner l'idée générale de cet acte mauvais, de cette espèce d'acte mauvais pour toujours. Et ça, vous l'avez dans le grammaire d'un sentiment à la page. C'est ça, 126, deuxième paragraphe jusqu'à 30. J'ai lu un passage qui montre que, malgré son empirisme, Newman accède à l'idée de valeur morale universelle. Il ne me vient pas à l'idée, bien entendu, de nier l'existence objective de la loi morale, ni notre reconnaissance instinctive de la différence immuable dans la qualité morale d'acte en tant que suscitée en nous par un seul exemple d'entre eux. Encore, il ne raisonne pas par le principe universel, il ne raisonne pas la qualité de l'expérience que nous faisons de quelque chose de bien ou mauvais, nous élève à un niveau de l'universalité. Même un seul acte de cruauté, d'ingratitude, de générosité ou de justice nous révèle tout d'un coup, intensive, l'immuable distinction entre ces qualités et leur contraire. C'est-à-dire dans cet exemple particulier et pour Avicii et pour d'autres cas. À partir d'une telle expérience, une expérience qui revient sans cesse, nous nous mettons à abstraire et à généraliser, ainsi la proposition abstraite vient à notre esprit. Il y a un bien, il y a un mal. En tant que représentant un acte d'inférence et reçu par l'esprit avec un sentiment notionnel et non réel. Donc les principes moraux, en tant qu'ils viennent dans notre esprit comme abstraction, comme proposition conceptuelle, appartiennent à la connaissance notionnelle. Cependant, dans la mesure où nous obéissons aux ordres particuliers qui en sont les marques, ainsi nous sommes-nous amenés de plus en plus à la considérer dans l'association de ces particularités qui sont réelles et à changer virtuellement la notion que nous en avons en une image de ce fait objectif qui est indéniablement dans chaque cas particulier. C'est Newman, ça. Et si nous voyons, par exemple, une personne traiter une autre personne d'une façon cruelle, cela imprime dans notre esprit non pas un principe général, mais une image réelle de ce que c'est que la violence faite à notre prochain. Et cette image réelle va nous accompagner dans tous les cas où nous voyons des traitements de ce genre. Vous voyez, c'est ça. Et nous avons, à ce moment-là, nous bâtissons une science de la morale à partir justement de ces expériences et des cas concrets d'actes bons ou mauvais qui ont sur notre être l'effet de nous sentir amèrement un blâme ou au contraire le plaisir d'être approuvé, si vous voulez. Voilà comment Newman raisonne. Il essaie de dire que oui, le principe moral appartient à la science notionnelle, mais l'expérience concrète des actes moraux, bons ou mauvais, sont de l'ordre de la connaissance réelle parce que nous en avons l'image imprimée dans notre esprit de ce que sont ces actes. Voilà comment il raisonne. Alors je passe à ce qui est beaucoup plus important pour mon propos avec vous, c'est le problème de la connaissance empirique, ou plutôt phénoménologique, disons, de la conscience morale ou religieuse, et cela comme fondement de l'existence de Dieu et de ses attributs. Il dit carrément, Newman, qu'il ne veut pas prendre comme forme hermésique et il ne veut pas chercher un forme hermésique, un forme métaphysique à la conscience morale religieuse, mais il le prend comme postulat et à partir de là, la connaissance réelle de Dieu et de ses attributs est possible, si vous voulez. Ce n'est pas seulement une connaissance notionnelle. Donc, il faut laisser parler Newman parce que il n'y a que lui qui puisse s'expliquer sur la manière dont il conçoit le raisonnement à faire pour prouver l'existence de Dieu à partir d'une phénoménologie de la conscience morale religieuse. Et ça, vous l'avez dans votre texte numéro 3. Oui, c'est ça. Moi, l'essentiel, vous l'avez. Mais je vais mettre sur le tableau peut-être quelques points qui sont à remarquer dans sa façon de faire cette phénoménologie. Comme ça, nous aidera à mieux lire le texte, si vous voulez. Premier point, je pense, un point à remarquer, si vous voulez, dans cette description phénoménologique. Description plutôt que définition, si vous voulez, plutôt que définition de la conscience morale religieuse. Premier point, le Dieu qui nous fait atteindre, le Dieu qui nous fait atteindre, est le Dieu relationnel de l'Écriture. Et le Dieu relationnel de l'Écriture. Il n'a rien à faire, excusez-moi de vous dire ça, mais il n'a rien à faire avec les cinq voies de traitement de cas. Rien à faire. Vous lui montrez la preuve de la contingence, il dit oui, mais ça nous fait aboutir à une espèce d'abstraction, on ne sait pas de quoi. le Dieu qui nous fait atteindre est le Dieu relationnel de l'Écriture. C'est le fait, si vous voulez, encore une fois, que l'anglais va. L'anglais, autrefois, on a annoncé sécularité, mais l'anglais apprenait la métaphysique par la métaphysique implicite qui est dans la Bible, si vous voulez. Autrefois, avant que les pasteurs anglicans aient une formation beaucoup plus pensée, parce qu'ils ont suivi un petit peu le mouvement de l'Église catholique, au moins le mouvement d'Oxford et l'anglo-catholicisme, et quand on est sorti, ils ont vu comment les séminaires, si vous voulez, étaient autre chose qu'une formation simplement universitaire, et ils ont multiplié les lieux où ils formaient la pasteur, un petit peu à la manière dont les séminaristes étaient formés dans des séminaires. Et alors, mais avant cela, avant cet effort d'avoir une étude un peu plus systématique, si vous voulez, de la théologie dogmatique, etc., encore qu'il n'y avait pas de théologie morale, finalement, avant que Kenneth Kirkland a essayé de donner une théologie morale aux Anglicans qui n'a jamais vraiment, la greffe n'a jamais vraiment prise. Et lorsque quelqu'un, on dit que un jeune demandait à un aîné dans le pastorat, comment est-ce que je dois me former au pastorat? La réponse était lire Shakespeare et la Bible. Voilà, c'est ça. Lire Shakespeare et la Bible. C'est-à-dire que dans Shakespeare, vous avez une métaphysique sous forme de théâtre et de poésie, et vous avez une anthropologie aussi qui est extrêmement profonde. Il y a une métaphysique dans Shakespeare, et ce qui est catholique d'ailleurs. Et semblablement, la Bible vous donne une métaphysique implicite aussi, hein. Parce que sans la liberté, par exemple, il n'y a pas moyen de comprendre rien, quoi que ce soit de la relation avec Dieu, etc. Enfin, la formation anglaise était comme ça. Elle a été dans les écoles avec les enfants comme ça. non pas donner des principes catéchétiques, mais donner, faire entrer dans le monde de la Bible. C'était ça essentiellement. Donc, deuxième point. L'injonction comme le jugement de conscience. N'est pas simplement un contenu moral, hein. Par exemple, tel acte est mauvais, tel acte est bon. Un contenu moral. Mais une injonction. Qui renvoie à l'intervention. Et ici, Vatican II l'a adopté, hein, l'invention du Dieu transcendant, ou de la transcendance divine, du même être. La transcendance divine, au plus intime de notre être. Troisième chose à remarquer, ou à retenir, si vous voulez, en écoutant cette analyse, il y a continuité sur le plan existentiel. Il y a continuité dans la conception, la conscience. Il y a continuité entre le naturel et le surnaturel. Et quatrièmement, au fond, c'est ranéen sans être ranéen. Au lieu de postuler de bizarres principes métaphysiques comme un existentiel surnaturel, etc., il suffit de voir comment fonctionne une conscience humaine. Et de Lubach d'ailleurs, se gausse des concepts métaphysiques ranéniens parce qu'il trouve justement que la simplicité avec laquelle Newman montre que Dieu intervient même. Qu'il n'y a pas finalement dans la manière existentielle dont Dieu traite avec l'humanité depuis la chute, il n'y a pas des hommes dont il ne traite d'une certaine manière relationnelle et même surnaturelle. Et d'ailleurs, ça rejoint Gaudium et Spes qui non seulement parle de Dieu qui parle de l'intime de la conscience, mais qui dit au numéro 20 de paragraphe 2, Dieu offre à tout être humain qui naît sur la terre la possibilité d'une participation au mystère pascal de Jésus. Dieu offre à tout être humain qui naît sur la terre la possibilité de participer au mystère pascal de Jésus. Comment peut-il le faire, sinon que par une conscience droite qui va souffrir dans la poursuite de la droiture? Moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Bon, enfin, c'est pour ça que d'ailleurs que Newman est si précieux pour le dialogue interreligieux, je trouve, parce qu'il donne des fondements anthropologiques justes. Quatrième point, sens de la providence. C'est un fait psychologique qui est constatable, et moi je l'ai constaté lorsque j'ai parlé avec mes grands-parents, que le fait de lire l'écriture tous les jours donne le sens de l'intervention de Dieu dans notre vie de tous les jours. Puisque la Bible parle comme ça, constamment. Un tel va à tel endroit, Dieu intervient et dit, vous allez à tel autre endroit, ceci, cela. Et alors, l'âme simple qui lit la Bible tous les jours est convaincue qu'il est entouré par une providence divine qui intervient partout dans la nature et partout dans sa vie. Et c'est au fond, c'est le passage que je vous ai lu sur l'effet positif que la lecture de la Bible, même sans explication doctrinale ou encadrement catéchétique, peut avoir sur des âmes qui sont droites. L'idée qu'au fond, Dieu les suit du premier moment de l'existence jusqu'à la fin, si vous voulez. C'est une conséquence de la fréquentation de la parole de Dieu, ça. Donc, voilà les quatre choses qui ressortent, si vous voulez, de cette analyse phénoménologique qui si, est déficiente peut-être sur le plan métaphysique, mais tant pis, c'est comme ça, il faut accepter Newman comme il est. Donc, le premier texte que vous avez, le numéro 3 là, porte sur la conscience en tant que telle, alors que le quatrième porte plutôt sur les attributs de Dieu. Alors, on va voir ça. Bon. Est-ce qu'on peut d'abord prendre le numéro 3 là? Est-ce que quelqu'un peut dire ça tout seul maintenant? C'est tout autre chose que la manière dont vous étudiez ces choses-là en philo. Hein. Bon.
Si donc, comme cela arrive, nous éprouvons un sentiment de responsabilité, de honte ou de frayeur pour avoir désobéi à la voix de la conscience, cela implique qu'il existe quelqu'un envers qui nous nous sentons responsables. Devant qui nous éprouvons de la honte et dont les droits sur nous nous inspirent de la frayeur. Si quand nous faisons le mal, nous ressentons la même tristesse éplorée, le même déchirement de cœur qui nous accable quand nous avons fait de la peine à notre mère, et si en agissant bien nous jouissons de la radieuse sérénité d'esprit, de la satisfaction délicieusement apaisante que nous procurent les éloges que nous recevons de notre Père, c'est que, sans aucun doute, nous avons au-dedans de nous l'image d'une personne vers laquelle se tourne notre amour et notre vénération, dont le sourire fait notre bonheur, vers laquelle se portent nos désirs et se dirigent nos supplications, dont la colère nous trouble et domine. De tels sentiments suscités en nous ne peuvent avoir pour cause qu'un être intelligent. Nous n'éprouvons pas de l'affection vis-à-vis d'une pierre, pas plus que de la honte devant un cheval ou un chien, ni du remords, ni du regret après avoir transgressé une loi purement humaine. Et pourtant, c'est un fait, la conscience excite toutes ces émotions pénibles. La confusion, les mauvais pressentiments, la condamnation de soi-même. En sens contraire, elle répand sur nous une paix profonde, un sentiment de sécurité, une résignation et une espérance qu'aucun objet sensible, aucun terrestre n'est capable de susciter. Le méchant s'enfuit alors que personne ne le poursuit.
Voilà, c'est très bref, mais c'est le sens exact de ce que j'ai mis comme première constatation, si vous voulez, de cette description. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le méchant s'enfuit alors que personne ne le poursuit? Parce que Dieu le regarde. Et vous avez ça dans le psaume que nous récitons dans l'office à intervalles réguliers. Oh, même si je m'enfuyais dans le ciel, non, Dieu, vous êtes encore là. Même si je m'en vais ailleurs, non, vous me voyez dans le secret, etc. Nous récitons ce psaume-là et ça passe très bien avec le chant à Notre-Dame de comme ça. Mais c'est que nous sommes sous le regard de Dieu, c'est ça. Ben, Newman a été éduqué comme ça. Et il dit que l'image de Dieu éclate dans le cœur de l'enfant parce qu'il dira, oui, je ne précise pas s'il n'y a pas des enfants qui ne soient jamais ça, parce qu'effectivement, il faut l'aide extérieure pour que cela s'éveille dans le cœur de l'enfant. Mais une fois que vous l'avez éveillé avec une lettre intelligente de la parole de Dieu à cet enfant, eh bien, cette image de Dieu qui est toujours présente à son être va s'éveiller en lui et rester pour toujours, si ce n'est pas encore émoussé par la laïcité ou quelque chose comme ça. Bon, allez, continue.
Le méchant s'enfuit alors que personne ne le poursuit.
Oui.
Mais alors pourquoi fuit-il? D'où vient sa terreur? Qui voit-il dans la solitude, dans l'obscurité, dans les réduits cachés de son cœur? Si la cause de ses émotions n'appartient pas à ce monde visible, l'objet qui est ainsi perçu doit être surnaturel et divin. Et c'est ainsi que les phénomènes de la conscience, en tant qu'impératif, contribuent à imprimer dans l'imagination l'image d'un gouverneur suprême et d'un juge saint, juste, puissant, qui voit tout, qui rend à chacun son dû, et cette image est le principe créateur de la religion, comme le sens moral est le principe créateur de l'éthique.
Voilà. le sens moral pensé créatif de l'éthique, c'est-à-dire le sens que en espèce tel acte est mauvais et tel acte est bon, hein. C'est le contenu moral du jugement qui est formulé là, alors que juste un peu plus haut, c'est l'autre aspect de la conscience qui est qu'il y a une injonction qui entre en nous, qui vient pas de nous et qui nous parle quand même de l'intérieur de nous. C'est là si la cause de ces émotions n'appartient pas à ce monde visible, l'objet qui est ainsi perçu doit être son naturel et divin, et c'est ainsi que les phénomènes de la conscience en tant qu'injonction ou obligation, si vous voulez, contribuent à imprimer dans l'imagination l'image d'un gouverneur suprême et d'un juge saint, voilà, juste puissant qui voit tout. Quelquefois j'ai parlé avec des Africains dans mes cours à Ars, et je leur ai dit que ils sont la raison pour laquelle le catholicisme a progressé avec une rapidité extraordinaire en Afrique, alors que pas ici, ma province. Le premier synode africain de toute l'Afrique a eu lieu en 1994, donc il y a seulement 15 ans de distance. Entre ce synode et celui qui vient de se passer, le nombre de catholiques en Afrique sous-saharienne a augmenté de 50 millions, beaucoup plus rapidement que la population. Et j'ai demandé à des Africains, dans mes cours, j'ai dit, mais est-ce que c'est pas parce que non entamé par un monde de consommation et de technique encore, l'âme africaine aspire à ce que la présence divine lui soit vraiment révélée, si vous voulez. C'est un peu comme le monde gréco-romain au moment où Saint Paul a commencé à prêcher, c'est-à-dire qu'on voyait que les mythes étaient ne correspondent à rien, et on voyait qu'il y avait une soif de surnaturel, une soif de vie éternelle, une soif de vie après la mort, etc., et ce que seul le christianisme pouvait combler. Et que l'Africain, même s'il avait tout un ensemble de choses qui étaient dans des entre-deux, comme des ancêtres, etc., avait le sens d'un être tout-puissant qui était là, au-dessus, qui était là, au présent, à toute son existence. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai, hein? Ben, vous n'osez pas dire non, mais s'il faut dire non, il faut dire non. Hein?
Non, c'est pour l'Africain, il y a un être suprême à dire tout. Bon, le problème, c'est ceux qui sont en bas, les êtres intermédiaires. C'est oui. Eux maintenant qui captivent l'attention des Africains. Et puis, bon, c'est à eux qu'on voue le culte et tout, et on laisse le créateur.
Voilà, c'est
ça le problème.
Alors ça correspond avec ce que Newman dit dans la grammaire d'un sentiment, où il dit que la religion naturelle est vraiment naturelle, c'est-à-dire que les mythologies gréco-romaines qui ont multiplié les dieux, ce sont des falsifications de quelque chose qui a été donné à l'homme par sa création, par le fait même qu'il est créature à l'image de Dieu, et malgré le péché qui est intervenu. Et ça correspond avec Saint Paul, qui dit, vous avez la lumière dans votre cœur, mais vous l'avez galvaudée avec tous vos péchés, toutes vos idoles et tout le reste, et tout le reste. Mais fondamentalement, le païen a cela dans le fond de son cœur. Et Newman ne fait que suivre l'écriture. Mais ici, en France, il faut se lever le bonheur pour convaincre les gens de ça. Excusez-moi. Ben, ici, c'est où l'Église, ou le rien. Et la religion naturelle, personne, il n'y a pas la case. Lorsque Benoît XVI est allé en Angleterre, il a dit la religion naturelle est le fondement de la loi civile. Et ensuite, alors, il y a la question de la place des églises, etc. Mais il a évité la place des églises parce que ça, c'est tellement compliqué en Angleterre que vous ne pouvez pas avec l'église établie et tout le reste. Mais il a dit non, là, c'est la religion naturelle. Mais la religion naturelle a disparu dans cette espèce de confrontation entre église d'un côté et révolution de l'autre, si vous voulez. C'est dommage. Mais c'est pas vrai. Si, non. Si, hein, c'est un peu vrai, hein. Comment ?
C'est à nuancer un peu aujourd'hui, me semble-t-il.
Oui.
Il y a un réveil d'une certaine forme de religion naturelle chez les gens que l'on rencontre, avec tout le réveil de tous les gens qui vont chez les guérisseurs, etc.
Ah oui, mais alors c'est déformé. Alors,
c'est déformé, mais ça montre bien qu'il y a quelque chose qui...
Ah oui, il y a une inspiration qui n'est pas...
Il y a une inspiration qui est là et qui est beaucoup plus forte qu'il y a un certain nombre d'années.
Ah ben c'est ça. Et qu'on ne peut pas étouffer. Et qu'on ne peut pas étouffer, définitivement. Bon. Donc voilà, des points qui ressortent de ça. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre l'autre texte ici, c'est plutôt la providence. C'est comment l'image de Dieu qui peut être gravée dans le cœur d'un enfant à partir d'un éveil ad hoc, qui est la disponibilité du cœur de l'enfant à voir cette image gravée en lui, peut se différencier maintenant en image réelle, donc connaissance réelle des attributs de Dieu. C'est le texte suivant. Si quelqu'un peut lire ça.
Bien plus, cette image présentée à sa vision mentale est l'image de quelqu'un qui, par menace et promesses implicites, ordonne certaines choses que lui, ce même enfant, par une certaine coïncidence, par ce même acte de son esprit, approuve. Choses qui reçoivent l'adhésion de son sens et de son jugement moral comme chose juste et bonne.
Voyez, sens et le contenu, le sens de tel acte, et jugement, c'est l'injonction, le double mandat de la conscience, oui.
C'est l'image de quelqu'un qui est bon, pour autant qu'il enjoint et impose ce qui est juste et bon, et qui, en conséquence, non seulement éveille chez l'enfant espoir et crainte, mais aussi, peut-on ajouter, de la gratitude envers celui qui donne une loi et qui la maintient par la récompense et le châtiment, et qui provoque en lui de l'amour envers ce quelqu'un qui donne une loi bonne et qui, par conséquent, ne peut être que bon lui-même, car c'est le propre de la bonté de susciter de l'amour, ou plutôt, l'objet même de l'amour, c'est la bonté. Et tous ces éléments distincts de la loi morale, que l'enfant type, tel que je le suppose, aime et approuve plus ou moins consciemment, à savoir vérité, pureté, bienveillance et choses semblables, ne sont que des formes et des aspects de la bonté. Sensible à tous ces éléments, à sa mesure, c'est à cause d'eux qu'il est poussé à aimer le législateur qui les lui enjoint. Et comme il peut considérer ces qualités et leurs manifestations sous le nom commun de bonté, il est préparé à les penser comme inséparables, corrélatives, complémentaires les unes des autres dans une seule et même personnalité. Si bien que pour lui, il n'y a pas un seul aspect de bonté qui ne soit celui de Dieu, et cela d'autant plus que la notion d'une perfection embrassant toutes les excellences possibles, aussi bien morales qu'intellectuelles, est spécialement enracinée dans notre esprit, et qu'en fait il y a des attributs intellectuels aussi bien que moraux, inclus dans l'image que l'enfant se fait de Dieu, telle que nous l'avons décrite plus haut.
Ça. Moi j'ai l'impression que la méthode de Noël de Duc était ça, hein. Éveiller le sens de Dieu dans le cœur de l'enfant d'abord. C'était ça, hein. On lui approchait, ah, il fallait parler de Jésus d'abord, etc. Oui, il faut parler de Jésus, mais Jésus en tant qu'envoyé par le Père, quoi. Je pense. Mais je dirais que les parents chrétiens, et moi, enfin, il y a un texte sympa qui vérifie au fond ce que Newman est en train de dire. Au moins dans le... Regarde, Éphésiens 3, 14 et suivant.
« C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se forme, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur.
De qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. C'est que l'analogie va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut s'élever à partir de la paternité humaine. Et Jésus l'a dit à propos du Père qui ne donnera pas un scorpion à celui qui a besoin d'un œuf, etc. Parce que même si vous êtes mauvais, il dit, vous êtes quand même image imparfaite de la paternité divine. Mais inversement, la paternité divine passe dans la paternité, la maternité humaine pour atteindre l'enfant à travers cette médiation. Parce que, en fait, le mot grec qui est employé par saint Paul là, n'est pas le père au sens de père d'une famille nucléaire par terre, c'est le mot patria. Donc, moi, je traduirais volontiers par parentalité. C'est-à-dire que c'est à partir de Dieu que toute parentalité est nommée. Et alors, on a cette chose extraordinaire dans l'évangile de Saint-Luc où il est dit que Jésus, lorsque la maman lui dit « Mais écoute, mon enfant, on t'a cherché dans la douleur et l'angoisse pendant 3 jours et tu nous as fait cette grâce pour les choses comme elles sont. Hein. » Et alors, il dit « Mais est-ce que vous ne saviez pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» Donc, transcendance absolue, si vous voulez, la paternité divine par rapport à toute autorité donnée à cette maman et à Saint-Joseph comme protecteur de la famille. Mais il est dit, 2 versets plus loin, qu'il est retourné à Nazareth et il a été soumis. Autrement dit, il acceptait ensuite que son père et sa mère unis vraiment dans l'Esprit Saint, mais pas seulement dans la chair, étaient ensemble à la médiation de la paternité divine. Et c'est comme ça que l'enfant, l'image de l'enfant dans une famille chrétienne est gravée dans son cœur, dans la matrice de la paternité. Une fois, il y avait une fille qui avait été suivie, qui avait suivi les années de formation biblique et catéchétique que j'avais donnée dans cet institut, dans cette école normale pour former des garçons et des filles à enseigner la catéchèse dans les écoles libres en Angleterre. Alors j'étais chez elle, elle était mariée depuis peu, et alors il avait une petite fille qui s'appelait Elisabeth, qui était... et alors pendant que la maman était à la cuisine, le papa n'était pas encore présent, mais pendant que la maman était à la cuisine, moi j'avais la petite fille sur mes genoux et j'ai dit, mais Elisabeth, tu sais, n'est-ce pas, que tu es remplie de la grâce sanctifiante, que tes péchés, que le péché originel t'est remis, que tu es habité par l'Esprit Saint, etc., etc. Et c'était pour taquiner la mère. Et la mère, à travers le guichet, dit, mais bien sûr que l'enfant sait tout ça, parce que l'enfant sait qu'il est aimé. Dans la matrice de l'amour parental, il y a l'éveil de la conscience de Dieu, spontané, et qui devient construit réflexe dès que les parents s'y mettent. C'est ça, hein? L'humain ne dit pas autre chose. Et alors, il y a quelque chose qui prolonge ça, dans ce sens que, sur ce point en particulier de la continuité entre le naturel et le surnaturel, il y a un passage que vous n'avez pas, que je voudrais lire aussi ici. Je me propose non pas de remonter aux origines de l'image de Dieu qui se fonde dans l'esprit d'un enfant ou d'un homme, mais de montrer qu'il peut acquérir cette image indépendamment et au-dessus de toutes les simples notions de Dieu et en quoi cette image consiste. que ces éléments qui existent dans l'esprit à l'état latent puissent jamais s'expliciter sans aucune aide extrinsèque, c'est fort douteux. Mais quelle que soit l'histoire réelle de la première formation d'image divine au-dedans de nous, il est du moins certain que par les informations extérieures à nous-mêmes, au cours du temps, elle est susceptible d'être renforcée et améliorée. Il est également certain que lorsqu'elle gagne en force et en netteté, ou que par contre elle s'obscurcit, se déforme ou s'oblitère, cela dépend de chacun de nous individuellement et des circonstances où nous sommes placés. Il est plus que probable que dans ce dernier cas, par l'effet de la négligence, des tentations de la vie, des mauvaises fréquentations, la pression des occupations profanes, la lumière de l'âme s'affaiblit graduellement et peut même s'éteindre. Les hommes n'écoutent pas leur sens du devoir et par là perdent graduellement ces sentiments de honte et de crainte rattachés à la transgression et qui sont, comme je l'ai dit, les témoins du juge invisible. Et même s'il paraissait impossible que ceux qui ont eu dans leur première jeunesse une véritable appréhension de Dieu puissent jamais la perdre complètement, il n'en reste pas moins que cette appréhension peut en arriver à n'être qu'à peine distincte d'une acceptation de cette grande vérité résultant d'une influence où peut s'affaiblir au point de n'être plus qu'une simple notion de leur intellect. Lorsqu'au contraire l'image de Dieu est entretenue avec amour, elle peut s'épanouir, s'approfondir, se compléter à mesure que les forces grandissent au cours de la vie et sous l'influence d'enseignements divers reçus du dehors et du dedans, ayant pour objet ce même Dieu impersonnel. Enseignements provenant soit de l'éducation, de l'action sociale, de l'expérience et de la littérature. Pour un esprit ainsi soigneusement formé, sur la base de sa conscience naturelle, le monde, celui de la nature et celui de l'homme, ne fait que renvoyer des reflets de ses vérités concernant l'unique Dieu vivant qui lui sont devenus familiers depuis son enfance. Et ainsi de suite. Et parce que le cours des choses est déterminé par des lois fixes, il considère que ces lois écartent l'intervention actuelle du Créateur dans la production d'effets particuliers. Il en est autrement de la théologie issue d'une imagination religieuse. Elle se rattache par des liens vivants aux vérités qui se trouvent réellement dans le monde, bien que ces vérités ne soient pas à la surface. Il évolue comme ça, de ce qui est naturel à ce qui est surnaturel dans la formation théologique et la révélation, en passant d'une façon phénoménologique de l'un à l'autre, si vous voulez. Au fond, c'est le lien existentiel entre le naturel et le surnaturel. Je me souviens, un jour, je me souviens un jour, lorsque j'étais à Lille, j'évitais la table des professeurs prêtres parce que c'était invivable. Bon, et j'allais souvent dans les... J'étais connu de tous les restaurateurs du quartier Vauban autour, à cause de ça. Et alors j'allais quelquefois dans un café, un restaurant chinois. Et alors il y avait plusieurs familles nucléaires qui s'étaient tassées dans le même établissement parce qu'ils avaient fui le marxisme au moment où c'était dur. Et ils avaient fui Shanghai. Et alors un jeune couple issu de cette tribu, si vous voulez, avait établi une épicerie un peu plus loin dans la rue Colbert, dans une rue passante là où était le restaurant. Et un jour, je suis entré dans cette épicerie où il y avait le jeune femme, le couple, et j'ai rencontré Sophie, la jeune femme, autour d'une étagère. Et j'ai lancé à la jeune femme, j'ai dit, vous êtes bouddhiste? Elle a dit oui. Alors j'ai dit, vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Elle a dit oui. Et alors j'ai dit, mais elle a ajouté après, je ne sais pas comment lui parler. Je n'ai pas l'idée que j'ai le contact est vraiment possible. Alors moi je suis allé immédiatement dans un magasin qui vendait des matériaux catéchétiques et j'ai acheté une carte avec le Notre Père dessus. Et je suis revenu à l'épicerie et j'ai dit, Sophie, voici ce que vous direz à ce Dieu qui vous semble inconnu ou qui ne s'occupe pas de vous. Alors elle a dit, mon père, ben d'accord. 15 jours ou 3 semaines plus tard, je suis allé dans le. Et je l'ai rencontré à nouveau. J'ai dit, Sophie, est-ce que vous avez prié notre Père? Elle m'a dit ceci. Mon Père, oui, mais il y a une invocation qui n'est pas facile à dire avec honnêteté et transparence. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ben, j'ai dit, mais la fille a tout compris. L'Esprit Saint a mis dans son cœur toute la loi et les prophètes. Parce que Jésus dit, l'amour de Dieu et du prochain est le lien intrinsèque entre les deux, c'est toute la loi et les prophètes. Ben, il fallait faire comme l'Éthiopien a fait avec Philippe a fait avec l'Éthiopien, il fallait la conduire à une pièce d'eau et la baptiser. Seulement la bureaucratie liboise a empêché que je fasse ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? L'âme est prête à recevoir comme ça. Prête à recevoir. Alors, mais Newman, c'est ça. Newman, c'est ça. Et alors, François Daguet, le fondateur de l'ISTA, m'a dit que Saint Thomas a eu des crampes existentielles avec la phrase de l'Épître aux Hébreux qui dit, 11-6, là. Parce qu'il dit, mais comment est-ce que les infidèles peuvent être sauvés s'ils doivent avoir une connaissance explicite du fait que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. Et alors, c'est 11-6. Et alors, Saint Thomas a de grosses difficultés avec ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et bien, dans cette fameuse de la conscience, tout est inclus. Le dialogue interrogé est tout à fait possible. Oui ou non? Ici, je ne sais pas. Mais Benoît XVI, lorsqu'il était en Angleterre, savait que c'était ça qui était au fond de la conscience religieuse anglaise, même si elle est tout mal foutue, comme maintenant en France, ça dégringole, si vous voulez. Mais au fond de la conscience religieuse anglaise, il y a ce trésor de la conscience morale religieuse. Et de la connaissance implicite du Dieu de la Bible. Moi, je me souviens qu'il y a une petite sœur de Charles de Foucault qui avait fondé à Camden Town, à Londres, où il y avait des maisons qui étaient abandonnées par la municipalité et qui devenaient des taudis et qui étaient squattées par des jeunes. Et alors, c'est des jeunes qui souvent aussi participaient à la distribution de la drogue, etc. Et quelques-uns de ces jeunes venaient dans sa fraternité pour faire un petit cercle. Et alors, elle faisait avec eux une lecture biblique. Elle m'a dit, à Paris, je ne pouvais pas faire la même chose parce que le laïcisme m'a trop mordu sur la conscience publique générale pour que je puisse faire ça. Mais avec ces jeunes qui étaient pratiquants de rien, qui n'appartenaient à aucune vie sociale, rien, bon, on distribue des Bibles et on fait des lectures de la Bible avec ces jeunes. Et ça passe. Parce que dans le fond de la conscience, il y a ça. Oh, quelquefois, il y a une fille qui se sentait mal, qui allait vomir quelque part, et puis revenait sa Bible. Mais je vous assure. Mais en France, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Eh bien, rien dit que si.
Dans le diocèse, il y a un diacre qui travaille aussi sur Lyon, qui fait un peu ça avec les gens du quart monde. Il leur apprend à gestuer, il leur apprend à chanter.